necessità di approfondimento e discussione. Credo che naturalmente poi leggendo il libro alcuni elementi si affinino, si possono approfondire, alcune cose sono rimaste fuori purtroppo, ma appunto la lettura del libro le risistemerà. Ma darei subito spazio a voi per domande, commenti, notazioni rispetto a quello che è emerso durante la lezione. Basta alzare la mano, verrà dato un microfono.
Io sono una studentessa di sociologia e scienze criminologiche e sto iniziando a trattare nella tesi l'argomento immigrazione. Diciamo che durante i discorsi di studi sono stati molti, a partire dal capro espiatorio, e poi mi ha soprattutto colpito il fatto di parlare di questione ebraica, no? Anche perché oggi comunque si parla sempre di fenomeni immigrazione, lo si vede comunque come una questione, un problema. E quindi volevo sapere, diciamo, una sua riflessione su questo parallelismo e anche, magari, riallacciandomi soprattutto all'ultimo discorso sull'ideologia, quanto le ideologie politiche influenzino, diciamo, la lettura della Shoah, perché io, per esempio, studiando, diciamo, più approfonditamente il fenomeno di immigrazione, ho proprio notato come l'ideologia politica influenzi la lettura del fenomeno. E quindi volevo sapere appunto questo parallelo. Grazie.
La question que vous posez entre sur l'idéologie, sur la Shoah et en même temps sur l'immigration, par exemple aujourd'hui, et la perception de l'immigration, c'est en fait deux questions à la fois. C'est premièrement la différence qu'il peut y avoir entre xénophobie et antisémitisme. Et la deuxième question, c'est y a-t-il une motivation idéologique au génocide ? La motivation idéologique au génocide, non seulement il y a une motivation idéologique au génocide, mais je dirais même, c'est la seule. Il n'y a pas d'autre motivation au génocide. Les Juifs n'ont pas été tués pour qu'on prenne leurs biens. Parce qu'on pouvait très bien les voler sans les tuer. La France a été volée par l'Allemagne. La France a été le pays le plus pillé par les nazis. Les Français n'ont pas été génocidés. Les Juifs ne sont pas tués pour des raisons religieuses. Les nazis se moquaient perdument de savoir qu'il y avait des Juifs convertis au christianisme depuis 2 siècles. Ils les ont tués aussi. Ils n'ont pas été tués pour des raisons territoriales. Il n'y a pas de territoire juif en Europe. Ils sont tués pour des raisons idéologiques. Ils sont tués pour des raisons idéologiques parce que le nazisme est l'héritier d'une démonologie anti-juive qui date de plusieurs siècles dans l'histoire de l'Europe. C'est cette fameuse passion génocidaire européenne dont j'ai parlé. Et là, du coup, je vous réponds à la deuxième question. La peur des immigrés, la peur des étrangers, la xénophobie à l'égard des étrangers, ici en Italie, en France ou ailleurs, peu importe, ça n'est pas l'antisémitisme, c'est la xénophobie. Toute bête. Pourquoi toute bête? Je dis parce que c'est propre à l'essence humaine, d'avoir peur des autres. C'est aussi bête que ça. D'avoir peur de ce qui n'est pas moi. Bon. C'est pas pour autant que je vais diaboliser l'étranger et faire de l'étranger le centre d'un complot mondial qui va se terminer en pensée paranoïaque du « lui ou moi ». Ça, c'est la pensée paranoïaque propre au racisme exterminateur. L'antisémitisme, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil, qui place le juif au centre d'une représentation du monde et qui fait qu'il nourrit cette pensée paranoïaque que si le juif vit, c'est que je ne peux pas vivre. Pour que je vive, il faut qu'il disparaisse. Pour qu'on en arrive là, il faut des siècles et des siècles d'histoire culturelle. Donc, la xénophobie actuelle contre les immigrés n'a rien à voir avec la passion génocidaire ou la passion antisémite de jadis. C'est pour ça que les comparaisons entre la crainte des immigrés, le racisme, les agressions aussi contre les immigrés et Auschwitz sont des comparaisons tout à fait infondées historiquement. Ça n'a rien à voir sur le fond. Absolument rien à voir. En France, on a vu beaucoup de gens bien intentionnés manifester quand il y avait eu des arrestations d'étrangers en situation irrégulière, il n'y avait pas de papier pour rester en France, on les a vu manifester avec des étoiles jaunes dans la rue, en pensant que c'était la même chose que les rafles de juifs qui allaient conduire à Auschwitz. Non, c'est pas pour ça que c'est bien, mais c'est certainement pas Auschwitz. C'est pas la même chose. Et à force de dire que c'est la même chose, ça nous empêche de comprendre et ce qu'est la xénophobie anti-étrangère et ce qu'était Auschwitz.
Sono molto contento che finalmente sia stato stampato il libro, perché io insegno, ho fatto una scelta, un po' passata anche ad insegnare in una scuola inferiore, e l'argomento della Shoah, la didattica della Shoah è stata la mia tesi di specializzazione, e i suoi lavori, come anche gli altri storici, mi hanno aiutato moltissimo per cercare di capire se è possibile una didattica della Shoah nella scuola. La mia formazione per certi aspetti è abbastanza vicina alla sua, nel senso che lo studio, soprattutto di Michel Foucault, è stato fondamentale nel portarmi avanti e portare avanti i miei lavori. Ci sarebbero tantissimi argomenti su cui discutere da questo aspetto qua, l'antilluminismo, il romanticismo del cancrenito nella società europea. Io volevo soltanto chiedere questo: da dove possiamo partire per creare uno sbarramento di fila, di piantare dei paletti all'interno di un processo nuovo, filologicamente corretto, di erudizione? Da quali autori possiamo partire come pensiero forte? Francoforte, Hannah Arendt, Foucault, Benjamin, Hilbert, affinché possiamo comprendere il pericolo incombente continuo che c'è, che uno stato criminale, come diceva Terrò, continui a minacciarci all'interno di questa società, o come dice Foucault ci ha insegnato nelle sue lezioni con l'Etica Franca: biopolitica, sicurezza, territorio, popolazione, la guerra delle razze, il razzismo di Stato. Grazie.
Posez une question difficile, centrale, de quel auteur, pas quel auteur seulement, dans quelle période aussi partir. Mais vous avez donné d'une certaine façon la réponse, déjà, vous la connaissez vous-même, je crois, la réponse. Vous avez parlé de l'État. C'est bien sûr la constitution de l'État moderne qui n'est pas ce qui est un État prévoyant, c'est un État qui protège. L'État protège. C'est la conception de Hobbes, de la violence de tous contre tous. Je perds un peu de ma liberté pour garantir ma sécurité, pour éviter la violence collective de la loi de la jungle, de l'horreur. Mais en même temps, l'État tel qu'il s'est constitué à partir du XVIIe siècle est un État de plus en plus enserrant dans les mailles. Donc, ce qui nous permet peut-être de comprendre la violence contemporaine et le fait que nous n'en sommes pas totalement sortis, même si elle a pris d'autres formes après 1945, c'est la réflexion sur l'État depuis le XVIIe siècle, et vous avez cité Foucault, c'est vrai, mais c'est aussi surtout la réflexion sur le pouvoir de plus en plus grand du biologique à partir du XIXe siècle. C'est donc ce que Foucault, on en revient toujours à lui, appelé la naissance du biopouvoir. Donc, naissance de l'État moderne des techniciens, de l'État administratif, et la naissance du biopouvoir permettent de comprendre comment progressivement nous sommes allés au crime, et comment, après 1945, nous ne sommes pas totalement sortis du crime, même si nous sommes sortis du crime nazi en tant que tel, bien sûr, mais nous sommes dans ce que Pierre Legendre, je reviens sur lui encore une fois, appelle des sociétés post-hitlériennes. Pourquoi ne dit-il pas que nous sommes dans des sociétés débarrassé du nazisme et dans la société post-hitlérienne, parce que le genre estime que nous sommes encore marqués par l'hitlérisme à certains égards. C'est là-dessus peut-être qu'il faut réfléchir sur l'État en tant que tel, sur le biopouvoir. Et quand je dis sur l'État, je vais vous raconter une petite anecdote très brève, sans abuser du temps. Au mémorial de la Shoah à Paris, vous savez qu'il y a beaucoup de visiteurs, beaucoup de groupes scolaires, on reçoit, je ne sais pas combien, de 40, 50, peut-être 50, 60 000 élèves pratiquement dans l'année, de toute la France. Et parfois même de l'étranger. Au sous-sol du mémorial, il y a la vasque qui contient les cendres rapportées d'Auschwitz de différents camps de Pologne, qui ont été rapportées en 1955. Là, les cendres mêlées. Et en 1997, on a, vous le savez, découvert dans un sous-sol du ministère des Anciens Combattants à Paris, le fichier juif. Le fichier juif, c'est ces 200 000 fiches qui qui ont répertorié la grande, pas tous, mais la grande nombre des juifs de France, par ordre alphabétique, ou par profession, ou par domicile. Il y a quatre fichiers, en fait. Un par ordre alphabétique, un par profession, enfin j'oublie le détail. Bon. C'est des dizaines et des dizaines de boîtes, ça fait une armoire entière, si vous voulez, des boîtes en bois, avec des fiches individuelles. En 1997, le gouvernement français, Jacques Chirac, avait décidé de transférer le fichier juif au mémorial. Une copie, hein, l'original se trouve aux archives nationales, la copie est transférée au mémorial. Jacques Chirac est venu, inauguration officielle, etc., très bien, très émouvant. Et où est-ce qu'il a été situé, le fichier juif? Où est-ce qu'il est installé? Il est installé au sous-sol. Il est là, le fichier juif, si vous voulez, il est là. Et là, vous avez la grande salle. Et ici, vous avez la vasque des cendres. Et quand j'ai vu pour la première fois le fichier juif, qui est impressionnant derrière une grande vitre, on voit des milliers de fiches. Il y a des milliers de noms et de vies derrière. Et en face, il y a les cendres. Je me dis, pour arriver aux cendres, il faut d'abord commencer par les fiches. C'est à partir des fiches qu'on va vers la mort des cendres.
Lei ha affermato che l'antigiudaismo svolge una funzione identitaria, cioè permette di definire chi siamo negando l'altro. E quindi svolge una funzione nel presente. Vorrei sapere se è possibile affermare che l'odio verso l'altro, oltre a svolgere questa funzione nel presente, svolge una funzione verso il futuro, nel senso che permette di recuperare una speranza legando la speranza altrui, cioè nel momento di crisi, quando viene meno la speranza, è possibile, tra virgolette, recuperarla negando la speranza all'altro.
Votre question m'incite à vous dire, à vous demander, ou plutôt à suggérer qu'il y a une autre question. Vous avez une autre question à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'espoir des autres ?
La speranza nel senso di futuro per l'altro, cioè recuperare l'idea di avere un futuro in un momento di crisi come quello che viveva la Germania prima della Seconda Guerra Mondiale, immagino che il popolo tedesco mancasse della speranza verso il futuro. E se è possibile affermare che attraverso la negazione del futuro degli ebrei, il popolo tedesco cercasse di recuperare un futuro proprio, cioè il negare l'altro per trovare il mio.
Mais pas tout à fait, parce que le génocide des Juifs, on est pratiquement convaincu aujourd'hui qu'il est programmé dès septembre 39. C'est-à-dire qu'il est prévu par Hitler en septembre 39, mais simplement il est prévu de l'exécuter après la guerre, et loin de l'Allemagne, loin de la Pologne même, le plus loin possible à l'Est, ou peut-être dans d'autres territoires en dehors de l'Europe. Autrement dit, le génocide des Juifs est prévu par Hitler et l'appareil hitlérien, au moment où l'Allemagne a un très grand espoir dans l'avenir. Si je suis votre hypothèse, ça signifierait que le génocide des Juifs a été exécuté au moment où l'Allemagne avait perdu tout espoir. Non. Le génocide a commencé, a été pensé, et même il a commencé au moment où l'Allemagne est très confiante dans son avenir et est persuadée encore qu'elle va gagner la guerre. Ensuite, il va s'accélérer effectivement au fur et à mesure qu'elle perd la guerre, mais une chose est sûre, c'est qu'il était prévu alors que l'Allemagne a tout son avenir devant elle. Cela dit, votre question reste quand même intacte. Pourquoi la focalisation de la haine paranoïaque va se cristalliser sur la minorité juive? Car c'est une première question à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui, si vous voulez. Puis la deuxième question que moi j'ai entendue, mais peut-être que j'ai tort en filigrane dans votre question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en 2009, dans la diabolisation du thème juif, on voit même en Europe, dans la diabolisation même d'Israël, on a vu récemment au mois de janvier, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de rejouer, encore une fois, je reprends ma métaphore géologique, comme une faille qui rejoue et qui provoque un tremblement de terre? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos contemporains quand il y a un tel acharnement sur la figure juive, sur la figure de l'État d'Israël, peu importe, quels que soient les crimes d'Israël ou la... la critique qu'on peut faire de sa politique est parfaitement justifiée. Bon. Quel que soit cela, est-ce qu'il n'y a pas une démesure dans la critique qui renvoie à de vieux schémas anti-juifs très anciens, c'est-à-dire à quelque chose qui a une fonction identitaire? C'est une question que je pose, hein. Je n'ai pas de réponse. Hein.
Ma innanzitutto vorrei confermare il piacere di aver assistito oggi a questa conferenza magistrale, per certi versi anche comunque la funzione positiva, rinnovata, che viene assicurata da queste occasioni, cioè di parlare di questa svolta del XX secolo. Su questo cercherò di dire qualcosa. Devo dire che sin dall'inizio, sin dal titolo della conferenza, ma dallo stesso suo ultimo volume, mi ha molto attirato e devo dire anche messo in difficoltà il parallelo illuminismo-antilluminismo, su cui non riesco ad entrare per la verità, però cerco lo stesso di dire quello che mi si è proposto alla riflessione. Non so se attribuire all'uno, all'illuminismo, o all'altro, all'antilluminismo, una serie di cose che proverò a dire, che però mi pare siano ancora caratterizzanti la svolta del XX secolo, che ancora viviamo. Da questo punto di vista mi sembra assodato che l'esplosione del genocidio non ha immunizzato definitivamente da possibili conseguenze, questo che siamo tutti consapevoli, il secolo che si è prolungato nel XXI e che quindi stiamo vivendo. Habermas, richiamato, già diceva ad esempio che nel suo procedere il capitalismo erode le basi morali su cui si è costruito, su cui è nato. Ed è chiara la lezione di altri grandi autori, lo stesso Max Weber, che in quegli anni, gli anni appunto 17-19, dettava una sorta di testamento nelle sue conferenze a Monaco e ricordava come, per certi versi, la razionalizzazione intellettualistica la chiamava, e non so appunto se è più figlia dell'illuminismo o dell'antilluminismo, però rischiava di ipotecare in maniera seria un certo andamento della modernità matura. Mi pare peraltro che due aspetti siano da sottolineare nel continuare a riflettere oggi su questa svolta e sul fatto che la violenza di massa, come lei stesso ci diceva, è corredata da una violenza in realtà nelle relazioni quotidiane, se ho capito bene, nella sua ricostruzione anche. Dei primi decenni del Novecento c'è una situazione socio-economica e culturale caratterizzata da violenza sorda, da una predisposizione alla violenza che diventa di massa, ma caratterizza una società. Mi pare che anche oggi ci siano alcune minacce quotidiane di violenza, ad esempio in relazioni mancate, incompiute, compresse. E allora dico questo, mi limito a enunciare alcuni punti. C'è una dimensione sociale della paura, oltre che a quella rilevantissima culturale, che sta nelle condizioni in cui anche oggi, quindi la porto all'oggi, siamo, con uno stiramento delle relazioni, che viene chiamata anche individualizzazione della vita sociale, o decollettivizzazione della vita sociale, che ancora una volta non so se attribuire maggiormente all'illuminismo o all'antilluminismo, mi perdoni se continuo a fare questa operazione, ma non riesco bene a rintracciare i nodi in questo, che porta, secondo alcuni autori, a un sequestro dell'esperienza. E quindi si torna alle questioni della memoria, che lei stesso ha rimarcato, e anche le questioni di come fare didattica, ma come fare narrazione su questi temi. Come ripetere e consolidare l'esercizio cruciale sia della memoria sia della promozione di capacità critica, autonomia critica in ciascuno di noi. Quindi questo sì, per proseguire nell'esercizio di ragione che l'illuminismo ci ha dato. Chiudo, perdonatemi, non faccio fatica in questa molteplicità di stimoli a trovare una mia pista. Quindi io direi il sequestro dell'esperienza, le condizioni in cui oggi interagiamo o manchiamo di interagire, hanno una potenzialità di violenza, secondo me, che è lì che aleggia. Come fare allora a neutralizzarla, se possibile? In quali forme di narrazione pubblica, di didattica, di discorso, di vita quotidiana? E poi mi pare, chiudo su questo, che sia da rimarcare quello che Amartya Sen ha più volte detto, che rispetto ai principi della rivoluzione francese, che in questo senso quindi prendo come eredità i principi dell'illuminismo, quindi libertà, uguaglianza e fratellanza, quest'ultimo sia forse quello meno perseguito, meno maturato, meno compiuto. Ha questo a che fare, in che misura, con l'individualizzazione della vita sociale, e se lei condivide, con questo sequestro dell'esperienza che caratterizza la nostra società altamente mediatizzata? Chiedo scusa, non so se sono stato chiaro. Grazie.
J'espère avoir tout compris d'abord. Et pour vous répondre en quelques mots, pas trop long, en quatre points simplement. Vous avez dit, vous avez parlé de la violence. Je crois que ça a commencé par la violence. Je pense que notre naïveté à nous, contemporains, post-nazis, nous sommes tous nés après la guerre ici, c'est de penser que la violence, telle qu'elle se produit, vaccine les sociétés ultérieures, les sociétés qui viennent après. Autrement dit, après ce qui s'est passé, comme on dit, plus jamais ça. En réalité, ce qu'on a mal vu, c'est que la violence non seulement ne vaccine de rien, elle protège de rien, mais c'est pire. Elle accoutume. Elle prépare les esprits à accepter la même chose et même pire. Donc la naïveté, c'est de croire que parce que le génocide avait eu lieu, il n'y aurait plus jamais de génocide, et que l'antisémitisme était mort. Premièrement, le génocide a eu lieu ensuite, c'est le Rwanda. Deuxièmement, les tueries génocidaires, elles ont lieu sous nos jours, tous les jours, le Darfour. Et troisièmement, l'antisémitisme, il se porte de mieux en mieux. Il est en pleine santé, même. Entre autres en Europe, je ne parle même pas du monde arabo-musulman, où c'est le pain quotidien. Donc visiblement, pour ce qui est d'avoir vacciné les peuples contre la haine antisémite, on peut dire que tout est raté. Absolument tout est raté. Il faut évidemment nuancer, parce qu'on grandit dans une grande partie de l'Europe aujourd'hui, et même du monde occidental, et même parmi le public cultivé, je pense que l'antisémitisme a largement reculé. Mais en même temps, certains thèmes antisémites, et ailleurs qu'en Europe, se portent bien. C'est le premier point. Le deuxième point, la violence de masse. Vous avez dit quelque chose, à mon sens, de très important. Est-ce que la violence de masse est plus ou moins sœur jumelle de la violence ordinaire qui fait nos sociétés, entre autres de la violence industrielle, de la violence urbaine, de la violence des conditions de travail, et en particulier de la violence des conditions de la première et deuxième révolution industrielle? Oui, bien sûr, il y a un lien entre la violence industrielle, la violence du monde économique, et ce qui a donné plus tard la violence de masse. À ceci près quand même que ça n'explique pas du tout le génocide, et donc il n'y a aucun lien entre la violence ordinaire de nos sociétés et Auschwitz. Il n'y a aucun lien. Pourquoi? Parce que la violence en tant que telle, et entre autres la violence ordinaire de la vie économique, de la vie sociale, c'est un moyen. Ça n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. Par exemple, la violence de masse, c'est un moyen du meurtre. Ça n'est pas une fin en soi. Tandis que la fin en soi d'Auschwitz, la fin en soi du génocide, c'est l'idéologie. La violence, c'est le moyen de mettre à mort les Juifs. Mais la raison pour laquelle on les met à mort, c'est autre chose. La raison pour laquelle on les met à mort, c'est d'abord et avant tout l'idéologie. Donc, la violence seule, sans idéologie, ça ne produira rien du tout. Ça ne produira certainement pas un génocide. Le troisième point, vous avez dit, la peur a une dimension sociale et pas seulement psychologique. Je suis tout à fait d'accord. Elle a une dimension sociale, si on l'explicite de la façon suivante. Nos sociétés sont profondément anxiogènes. Ce sont des sociétés qui génèrent de la peur, parce que ce sont des sociétés d'incertitude où les choses vont extrêmement vite et ce sont en même temps des sociétés du spectacle. Vous avez dit d'ailleurs, je vais terminer là-dessus, nous sommes dans des sociétés médiatisées, je dirais plus, nous sommes dans des sociétés du spectacle où nous sommes nous-mêmes notre propre spectacle, où toute réalité est transformée en spectacle et nous sommes des voyeurs. Regardez les émissions de télé-réalité par exemple. Mais pas seulement. À partir de ce moment-là, dès lors que nous sommes dans des sociétés très anxiogènes, des sociétés qui suscitent beaucoup de peur, d'incertitude, eh bien, le propre du politique, c'est de transformer la peur en haine. Pourquoi transformer la peur en haine? Parce que quand la peur se transforme en haine, elle agrège les individus. La peur les dissocie, la haine les associe. Et quand la peur est transformée en haine, la haine devient de la violence. Et quand elle devient de la violence, elle forcément se focalise sur un groupe. Et c'est ça le danger des sociétés anxiogènes comme les nôtres, que la peur se transforme en haine, que la haine devienne violence et qu'elle se focalise contre une victime émissaire ou contre un groupe. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Dernier point, vous avez dit, et comment faire maintenant? Moi, je n'ai pas de recette. Je n'ai pas de réponse. Je pense simplement que l'invocation à la mémoire ne sert à rien, parce que la mémoire, par définition, est oublieuse. La mémoire trie énormément, la mémoire déforme, la mémoire transforme. Ce sur quoi il faut insister, c'est sur l'effort d'histoire. L'effort d'histoire au sens d'un effort de pensée. Penser quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure durant l'exposé. Penser, c'est mettre à jour des mécanismes. C'est pas être dans le morbide. Les gens pensent, quand on travaille, nous, par exemple, à Paris, au mémorial de la Shoah, on travaille sur le génocide. Bon, dis, mon Dieu, que c'est triste. Que c'est triste, hein, sur le génocide, tous les jours. Vous êtes morbide. Vous êtes dans la mort en permanence. Je dis, non. Non, on rit beaucoup, même. Au contraire. On ne rit pas du génocide, évidemment, mais on est souvent très gai. À Paris, l'équipe confort de formateurs, on est dans toute la France, à droite, à gauche, dans tous les lycées de France, pour former des professeurs, pas les élèves, mais les professeurs. On n'est pas spécialement des gens tristes. Parce que le génocide, ce qui nous intéresse dans le génocide, c'est le présent. Ce n'est pas seulement le passé, c'est les mécanismes politiques qui font réfléchir et qui permettent de comprendre comment une société peut basculer dans l'horreur. Donc l'intérêt, ce n'est pas la morbidité de la souffrance et les larmes, on n'est pas dans les larmes. On est dans la réflexion politique permanente de savoir comment on peut en arriver. On peut en arriver là, comment une société en est arrivée là, et comment aujourd'hui, quand on démonte les mécanismes politiques qui mènent à la catastrophe, on peut en tirer une véritable réflexion qui fait des professeurs qu'on a en face de nous, des élèves qu'ils auront eux demain dans leur classe, des gens qui sont aptes à penser. Dans le fond, s'il y a quelque chose qui peut nous être une digue contre l'horreur, c'est pas la culture. On l'a bien vu, la plupart des officiers nazis sont des gens cultivés. Ce ne sont pas des brutes, ce ne sont pas des primitifs. Ce qui fait quelque chose réellement comme digue à l'horreur, c'est la pensée. Et ça, vous avez cité tout à l'heure, l'école de Francfort, Benjamin, Adorno ou Hannah Arendt qui ne participaient pas à l'école de Francfort, c'est aussi ce qu'ils nous ont parfaitement appris. C'est ça aussi, profondément. C'est que c'est l'effort de pensée qui est peut-être l'une des meilleures antidotes à la répétition des catastrophes.
How do you see between anti-Semitism and anti-Americanism? Thank you.
Je pense qu'aujourd'hui il y en a, oui, il y a des liens très profonds entre antisémitisme et anti-américanisme. J'ai pas spécialement réfléchi à la question, je suis frappé comme vous, comme contemporain, par le fait que ces deux haines sont conjuguées aujourd'hui dans le discours public. Je verrais comme ça, a priori, deux points de ressemblance très forts. C'est d'une part cette idée constante que les États-Unis dominent le monde et que dans le fond, dans la haine anti-juive, il y a cette conviction du complot aux juifs mondial où les juifs dominent le monde par la finance, par les médias, etc. Il y a là un point commun, si vous voulez, entre les Américains considérés comme les maîtres du monde, des juifs considérés aussi comme les maîtres du monde. C'est un parallèle. Le deuxième parallèle, c'est qu'on a aussi affaire à un sens de la nation qui est très fort, hein, dans les deux cas. On a une nation juive sous le nom de l'État d'Israël qui est aujourd'hui, il revendique profondément son identité. Une nation américaine qui est aujourd'hui également très forte face à une Europe qui, elle, au contraire, est en crise d'identité très grave, qui doute profondément d'elle-même, de son avenir, qui doute de son identité, tout simplement, d'Européen, dans un monde, on l'a dit 10 fois, de plus en plus métissé, mondialisé, etc. Je crois que ça fait partie des parallèles qu'on peut faire. Alors, en vous disant cela, je n'épuise pas du tout le sujet.
Ce que je peux dire simplement, c'est que je ressens comme vous le fait qu'il y a des passerelles. Je ne peux pas en dire plus.
Se non ci sono altre cose. Brevemente perché credo che sia importante.
Io stavo pensando a cioè, mi chiedevo se ci fosse se c'è un rapporto, un nesso causale, un rapporto di causa effetto tra il pregiudizio e la discriminazione. Cioè, considerando il fatto che il pregiudizio è comunque un'opinione, no? Che si ha magari anche per sentito dire verso dei membri di un gruppo, verso una categoria. E invece la discriminazione è comunque la messa in atto di comportamenti contro, diciamo, quelli che si considerano diversi. E considerando anche il fatto che oggi viviamo comunque in una società che mi sembra sia sempre più orientata verso questa paura del diverso e quindi fatta di pregiudizi. Dobbiamo preoccuparci del fatto che vivendo in una società del genere si arrivi dopo forza a una discriminazione oppure può esistere il pregiudizio senza la messa in atto, cioè i comportamenti violenti.
Aussi, je pense que vous faites allusion à ce qui se passe probablement en Italie avec les immigrés, peut-être. Les manifestations. Oui. Les manifestations de xénophobie ou autres. Je crois que là. Moi, je ne travaille pas spécialement là-dessus. L'impression que je vous donne est celle d'un citoyen français, c'est que. Plus une société est en crise d'identité profonde, moins elle sait ce qu'elle est, et moins elle est tolérante. Alors qu'on pense généralement le contraire. On pense que plus une société a une identité forte et enracinée, et plus elle est xénophobe. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que si l'identité de la France, ou d'Italie, ou d'autres, était beaucoup mieux assumée, les manifestations d'intolérance, de xénophobie, etc., seraient peut-être moins, en tous les cas, je ne suis pas convaincu qu'il faille se focaliser là-dessus, parce que il y a une réelle crise identitaire dans une bonne partie des pays d'Europe, qui font que quand les identités sont vacillantes, là, la porte est ouverte au danger. Et elles sont vacillantes en Europe. Vous ne pouvez pas piétiner, si vous voulez, les traditions locales, nationales, etc., impunément. À un moment ou à un autre, ça se retourne contre vous. C'est très dangereux de jouer avec les problèmes de la filiation et de la tradition. C'est très, très dangereux.
La mienne est une réflexion et une demande pour vous. Elle parle de difendere et d'être vissute. Et elle est justement comme aujourd'hui, si considérons les vies semplificables. E lo scarto da la vita considerata significabile, la vita in genere di essere vissuta, non so quanto sia grande, però abbastanza per permettere di prendere una strada diversa. E mi è venuto in mente come gli ebrei e le altre vittime del genocidio, la loro vita appunto essendo considerata in genere di essere vissuta, siamo stati privati in qualche modo della vita, ma siamo stati privati anche della morte. Quindi una non vita ma anche una non morte, che è diverso, è diverso. Cioè nel senso la morte non è il contrario della vita, fa parte di essa sostanzialmente, quindi una non morte.
Vous avez raison, votre réflexion est très, très profonde, parce que quand on dit souvent que et X millions de juifs sont morts à Treblinka ou Auschwitz, moi je dis toujours non, pas morts. Ils ne sont pas morts aux Auschwitz, parce que la mort fait partie de la vie, je suis tout à fait d'accord avec vous, la mort est une notion humaine. Ce qui a été tué à Auschwitz, c'est la mort. La mort elle-même a été tuée à Auschwitz. Ils ont été détruits. Détruits comme de la vermine ou comme des rats. Donc on a nié leur mort comme on a nié leur vie. Profondément. Et c'est ça qui est important et qui fait qu'Auschwitz est une leçon universelle et pas une leçon juive, c'est qu'en niant l'humanité des juifs, on a nié l'humanité de la personne humaine. Et si l'humanité des juifs a été niée à travers elle, l'humanité de toute personne humaine, c'est nous tous aujourd'hui en tant que personne humaine qui sommes en danger. Et on est en danger parce que la transgression qui a été réalisée à Auschwitz par le biopouvoir, la biocratie, tout ce que j'ai vite évoqué aujourd'hui, cette transgression-là, c'est comme un billet de chemin de fer. C'est un billet aller simple. Il n'y a pas d'aller-retour. Une fois qu'une transgression a été opérée, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Ce que j'ai dit des paliers de la violence. Si ça a été possible, comme le disait Primo Levi, c'est encore possible. Juif ou pas, ça n'a rien à voir avec le fait de juif. C'est le fait humain lui-même qui est en danger de mort depuis que ça s'est passé. Le fait humain n'est plus du tout sacré. La personne humaine est complètement désacralisée. Nous sommes dans le biopouvoir. Et à partir de là, tout est possible. Encore une fois, je reviens à Le Gendre. C'est pour ça que Le Gendre parle de société post-hitlérienne.
Grazie ancora naturalmente alle persone che hanno permesso questo incontro attraverso la traduzione e a presto per altri momenti di riflessione insieme.